Donc, je vais à nouveau parler en français et cette fois-ci, on va parler des maladies thromboemboliques et de la place des nouveaux anticoagulants dans la maladie thromboembolique. Alors, quelques généralités sur le traitement de la maladie thromboembolique que vous connaissez. Le traitement initial doit être rapidement efficace. Donc, jusqu'à maintenant, il fallait de l'héparine et plus fréquemment maintenant des héparines de bas poids moléculaire en l'absence de maladie rénale sévère. Et pour le traitement au long cours, 3 mois, 6 mois ou plus, il y a des recommandations sur les durées de traitement. Jusqu'à maintenant, le traitement anticoagulant de référence était les antivitamines K, en dehors peut-être du cancer. Les problèmes du traitement initial, et puis, donc ça c'était les recommandations classiques, et puis sont arrivés les nouveaux anticoagulants, les anticoagulants oraux directs, avec le premier essai qui utilisait les anticoagulants oraux directs, le rivaroxaban, publié en 2010 dans le New England Journal of Medicine. Cet essai validait l'efficacité, la possibilité d'utiliser en première intention rivaroxaban dans la maladie thromboembolique, en particulier dans la thrombose veineuse. Depuis, les anticoagulants oraux directs se sont répandus dans la maladie thromboembolique et suivant les pays, ils ont une autorisation soit pour uniquement la thrombose veineuse profonde, soit pour thrombose veineuse profonde et embolie pulmonaire. Et je ne parlerai pas là de la prévention, je ne parlerai que du curatif. Alors, suivant les pays, donc ils n'ont pas tous les autorisations, vous savez, c'est très variable, mais globalement, les quatre anticoagulants ont, dans la plupart, dans beaucoup de pays, une approval. Les protocoles sont différents, et là, c'est là où les choses commencent à se compliquer. Pour dabigatran, anti-2A, l'essai clinique utilisait en première intention un traitement injectable. Donc, si vous traitez une thrombose veineuse par dabigatran, vous devez commencer par un traitement injectable, donc globalement l'héparine. Vous ne pouvez pas commencer par dabigatran. Ensuite, les recommandations variaient suivant le degré d'insuffisance rénale. Je rappelle que le dabigatran a une élimination rénale prépondérante. Au-dessus de 30, c'est 150 mg. En dessous de 30, on ne sait pas très bien. Ma recommandation, c'est de ne pas utiliser les dabigatran en cas d'insuffisance rénale sévère parce que vous ne savez pas où vous en êtes. Et puis, attention, il y a des interférences métaboliques que l'on connaissait avec l'antivitamine K parce que nous avions l'INR et qu'on ne voit pas alors qu'elles sont tout aussi importantes avec les nouveaux anticoagulants. On ne les voit pas parce qu'il n'y a pas de surveillance biologique, mais elles sont très importantes. Vous pouvez avoir des augmentations des taux plasmatiques de 2 à 3 fois avec certaines interférences médicamenteuses. Pour les anti-2A, vous voyez que les doses sont très variables, donc n'utilisez qu'un seul nouvel anticoagulant ou deux, mais sinon vous serez perdu. Pour apixaban, on peut commencer avec apixaban puisque dans l'essai clinique, les patients étaient d'emblée mis sous apixaban et non pas sous traitement injectable. La dose, c'est 10 mg deux fois par jour pendant 7 jours, puis 5 mg deux fois par jour. Ils ne recommandent pas de réduction en cas d'insuffisance rénale. Je pense qu'il faut rester prudent. Il y a quand même 20 à 30% éliminés par le rein, donc je crois que ce n'est pas très prudent. Et puis, s'il y a une maladie hépatique, n'utilisez pas apixaban parce que apixaban est métabolisé par le foie. Edoxaban, qui n'est pas encore commercialisé dans beaucoup de pays, 60 mg per os après traitement initial parentéral. Donc là encore, ils n'ont pas commencé par un traitement direct. Donc vous ne pouvez pas commencer par edoxaban. Réduire de 30 mg si le poids est inférieur à 60. Vous voyez qu'on est dans des recommandations différentes d'un produit à l'autre. Donc c'est une source d'erreur. Réduction de dose en cas de maladie rénale, mais elle n'a pas été testée. Donc on vous dit réduisez la dose, mais on ne peut pas vous dire si ça marche. Pour rivaroxaban, qui était le premier qui a eu l'autorisation, 15 mg deux fois par jour pendant 3 semaines, puis 20 mg une fois par jour. Encore une fois, il est conseillé de réduire la dose chez le patient fragile, insuffisant rénal, mais vous n'avez aucune donnée de la littérature pour vous dire si c'est efficace et si c'est bien. Mais les recommandations acceptent ça, ce qui m'étonne un petit peu. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, puisqu'on l'a déjà vu sur les différents produits. Il y a la warfarine en haut avec le problème des INR, apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban. Je n'insiste pas. Juste pour vous rappeler sur la colonne de droite, les interférences médicamenteuses, on les connaît avec les antivitamines K. On les voit moins bien, mais chaque patient de plus de 40-50 ans a forcément un produit qui interfère. Donc, faites très attention à ça. Et les médicaments qui interfèrent avec ces produits sont fréquents. Alors, je ne vais pas reprendre les recommandations nord-américaines, puisqu'elles ont déjà été exposées. Je vais prendre le rationnel de ça. Donc, premier point, nouveaux anticoagulants versus antivitamine K dans la thrombose veineuse ou l'embolie pulmonaire modérée. Vous voyez que si je prends l'efficacité, alors c'est les essais que vous connaissez, Amplify pour Apixaban, Recover pour Dabigatran, Ocuzai pour Edoxaban, etc. Vous voyez que si on regarde, on a des petites différences, mais c'est jamais significatif. On est toujours de chaque côté de 1. D'accord ? Que ce soit avec Apixaban. Donc on ne peut pas dire que ces produits sont plus efficaces que les antivitamines K en efficacité, je ne parle pas en risque, je parle en efficacité, soient plus efficaces que les antivitamines K sur les traitements à 3-6 mois. Efficacité identique, il n'y a pas de différence significative. Par contre, si on prend sur le risque hémorragique de ces produits, là, vous voyez qu'on arrive à des seuils de significativité. Risque hémorragique pour Apixaban versus antivitamine K, on passe du simple au double. Pour Dabigatran, 5,3 versus 8,5. Edoxaban, 8,5 versus 10,3. Et vous voyez qu'on est significatif. Sauf pour Rivaroxaban. Donc, si je prends sur le risque hémorragique, et c'est un petit peu ce qui avait été... C'est un peu ce qui avait été proposé tout à l'heure, ce qui a été montré tout à l'heure. Cet effet sur le risque hémorragique a conduit à une recommandation d'utiliser plutôt les anticoagulants. Il faut quand même regarder, donc, c'est pour ça qu'il y a cette recommandation nord-américaine des nouveaux anticoagulants versus AVK à cause du risque hémorragique. Simplement, il faut quand même regarder les choses un peu plus près. Quand on regarde ce papier de Blecker, qui est très bon, en 2016, il a fait une post-hoc analysis sur l'essai lui-même, sur l'essai Amplify, et il a demandé à 3 cliniciens de classer en aveugle les clinically relevant non-major, CRNM, les graves et les très sévères. Et sur les saignements majeurs, sur les majeurs saignements, et c'est Apixaban, c'est celui qui donnait les meilleurs résultats dans les essais cliniques, eh bien, more severe clinical presentation non significatif, severe clinical risk non significatif, sur les événements tout compris, non significatif ici et non significatif là. Donc, et ça, c'est de la post-hoc analysis, c'est pas des petits essais non randomisés. Donc, il en conclut que la présentation clinique et le suivi sur les saignements sont similaires sur Apixaban et l'alternance enoxaparine-warfarine. Donc on n'est pas tout à fait dans ce qui avait été montré par l'essai. C'est assez intéressant de voir ça. Il faut toujours regarder avec un essai. Donc est-ce qu'on peut essayer d'avancer ? Parce qu'on peut toujours trouver dans la littérature des essais qui montrent quelque chose et d'autres qui ne montrent pas. Et là, je viens de vous le montrer là. Alors dans ces cas-là, souvent on s'adresse aux meta-analyses. Les méta-analyses sont un outil, c'est pas la vérité absolue, parce qu'une méta-analyse mélange des produits différents, des protocoles différents et tout ça. Mais quand on n'arrive pas à se faire une idée, la méta-analyse peut être intéressante. Et si on reprend sur les méta-analyses, donc qui poulent tous les essais, vous voyez que sur les major bleeding, on est significatif. On l'est aussi sur les intracranial bleeding, okay. On l'est sur les fatal bleeding. Hein, puisqu'à chaque fois vous êtes sur le regard à une petite P, vous voyez qu'on est toujours significatif, sauf sur les gastro-intestinal bleeding. Et je vous rappelle que sur les gastro-intestinales, dabigatran fait plus saigner que les antivitamines K, c'est bien connu. Donc, si je prends les conclusions des méta-analyses, on revient effectivement sur le fait que ça saignerait moins avec les nouveaux anticoagulants dans la thrombose veineuse. Donc, je reprends cette donnée. On prend la méta-analyse et puis maintenant, je me mets à l'échelle du médecin. Imaginez, là j'ai les chiffres sortis des méta-analyses et j'ai une réduction du risque hémorragique. Alors imaginez maintenant ce que vous, médecin, ce que ça fait pour vous. Vous êtes médecin, imaginez que vous suiviez chaque année 100 embolies pulmonaires. Combien d'homologues ici voient 100 embolies pulmonaires par an ? Peut-être pas beaucoup, d'accord ? Eh bien, sur 100 embolies pulmonaires, et tout à l'heure, dans le premier exposé, il a développé le même argument que ça. Vous voyez que ce risque hémorragique, quand vous prenez majeur, vous rendez compte, c'est significatif, statistiquement significatif, vous allez faire saigner, ils vont mourir tous. Eh bien, regardez ce qui va se passer. S'ils envoyaient 100 dans l'année, hein, vous aurez de 0,5 à 1 augmentation de major bleeding pour 100 patients dans l'année. Pour 100 patients dans l'année, vous aurez une augmentation des saignements intracrâniens, ceux qu'on réduit le plus, de 0,2, c'est-à-dire une fois tous les 5 ans, sur les 5 années où vous aurez vu 100 embolies pulmonaires, vous aurez un accident hémorragique intracérébral de moins. Et sur les fatal bleeding, eh bien, vous aurez tous les 10 ans, probablement, un accident hémorragique sévère de moins. Donc il faut quand même bien se dire qu'il y a les essais cliniques, c'est ceux qui donnent les recommandations, il y a la réalité clinique qui est quand même qui doit parfois être tempérée. Alors, si on fait le parallèle de tout ça, si on essaye de synthétiser tout ça, et ce n'est pas encore ma conclusion, les anticoagulants oraux directs sont plus faciles à prescrire. D'accord ? Dosage fixe, on l'a vu avec des dosages, attention, hein, 5 mg, 10 mg, 60 mg, 150 mg, une fois, deux fois par jour, etc. Attention, hein, parce que là, vous n'avez pas de garde-fou. Il n'y a pas de biologie, donc pas de garde-fou. Pas d'injection pour la plupart, sauf pour dabigatran et doxaban, puisque vous devez commencer avec un traitement parentéral. Pas de relais, puisque bon, vous allez traiter de 0 à 3 mois. Pas de suivi biologique et des interactions médicamenteuses, comme pour l'antivitamine K. Pour les antivitamines K, c'est plus compliqué. C'est ça la vraie différence dans la maladie thromboembolique. Le relais héparine antivitamine K, c'est beaucoup plus compliqué à gérer que de prescrire un produit. Il faut faire des INR, il faut équilibrer, il faut savoir se servir des antivitamines K. Il faut commencer par une héparine de bas poids moléculaire et les antivitamines K, hein, je suis dans la colonne de droite. Le relais, c'est la période critique et c'est pour ça qu'ils saignent plus les patients traité pour maladie thromboembolique, parce que la période critique, c'est entre 0 et 21 jours, là où vous allez faire le relais, là où les héparines versus antivitamine K. Bien sûr, il faudra faire l'INR et vous aurez des interactions. Donc, si l'on synthétise tout ça, il y a quand même un avantage aux nouveaux anticoagulants dans la plupart des cas, et c'est pour ça que nous avons cette recommandation nord-américaine. C'est plus facile à utiliser, ça saigne un petit peu moins, mais tout à l'heure, on l'a vu quand même. Quel prix est-ce que la collectivité est prête à mettre pour réduire ce risque hémorragique de un patient tous les 10, ce décès hémorragique d'un patient tous les 10 ans? On est à 7 fois le prix, hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui reste comme problème? Parce qu'on pourrait s'arrêter là. Eh bien, tout n'est pas résolu encore. Et on a vu tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé cette présentation, on a vu en 2012, on a des recommandations, c'est parfait. En 2016, on a des recommandations, et ce n'est pas les mêmes. Donc la science évolue, et c'est ça, la chance que nous avons, c'est qu'elle évolue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problème restant et qui vont peut-être faire changer encore la donne? Le premier, c'est évidemment l'insuffisance rénale. Pour moi, la grande insuffisance rénale est une contre-indication à tous les nouveaux anticoagulants. Parce que vous ne savez pas où vous en êtes, vous ne savez pas s'il a 30, 50, 200 ou 400 nanogrammes par ml. Donc la grande insuffisance rénale, je pense qu'il vaut mieux éviter les anticoagulants. Dans l'insuffisance rénale modérée, les anticoagulants peuvent être utilisés, mais vous n'avez aucune information sur le degré. Vous ne savez pas où vous en êtes. Vous ne savez pas non plus ce que ça fera. Donc il faut être prudent sur la petite insuffisance rénale avec nos anticoagulants, mais on sait aussi qu'il faut être prudent avec les héparines de bas poids moléculaire dans l'insuffisance rénale modérée. Enfin, la réduction de dose qui est proposée pour les nouveaux anticoagulants, elle n'est pas validée dans la littérature. Il n'y a pas de données qui permettent de dire « oui, c'est vrai, si je mets moitié dose, ça marche aussi bien ». Ce n'est pas vrai, ce n'est pas validé. Deuxième point, problème restant avec les anticoagulants oraux directs, c'est les interactions. On a vu les interactions, que ce soit avec le cytochrome P3A4 ou avec la P-glycoprotéine. Il y a des interactions métaboliques très importantes, en particulier les antituberculeux qui vous concernent tous ont des fortes interactions. Et attention, on les connaît avec l'antivitamine K, on les maîtrise parce qu'on a l'INR derrière. Mais sur les nouveaux anticoagulants, vous ne pouvez pas les maîtriser, ces interactions. D'accord. Donc, il faut être très prudent là-dessus. Et vous n'avez pas de biologie. On peut vous donner, je vous ai montré tout à l'heure, on a des tests biologiques, mais en pratique, vous ne les utilisez pas. On vous dit de ne pas les utiliser, vous n'allez pas les utiliser, donc vous ne le ferez pas. Donc attention, on est quand même à l'aveugle dans les points un peu critiques. Et puis je voudrais terminer puisque les données évoluent, hein, les recommandations de 2016, elles datent de tous les essais publiés en 2010, 2011, 2012. Est-ce que vraiment l'efficacité des nouveaux anticoagulants est la même que celle des antivitamines K dans la maladie thromboembolique? Il y a un essai récent, publié dans Lancet Hematology, qui n'est quand même pas une petite revue. C'est un essai qui est sponsorisé par l'industrie. et qui a testé rivaroxaban versus warfarine pour traiter les patients avec syndrome des antiphospholipides, avec ou sans lupus érythémateux, étude randomisée, contrôlée, open label, phase 2, étude de non-infériorité. Quand l'industrie se lance dans un essai comme ça, elle sait à peu près qu'elle va gagner. Donc, voilà cet essai, essai de non-infériorité, antiphospholipide avec ou sans lupus, warfarine versus rivaroxaban pendant 6 mois. 116 patients, 54 sous rivaroxaban, 56 sous antivitamine K. Tous traités au départ par antivitamine K, donc au départ ils sont au long cours puisqu'ils ont un syndrome d'antiphospholipide, ils sont tous antivitamine K, puis on randomise, certains vont rester sous leurs antivitamine K et d'autres sous nouveaux anticoagulants. D'accord. Le endpoint terminal, parce que c'est peu de patients, ça ne pouvait pas être la phlébite, il y avait peu de chances qu'il y ait des phlébites sur un an. Et donc le endpoint terminal, c'est le potentiel de thrombine endogène, c'est-à-dire la capacité qu'a le produit à neutraliser vraiment, à bloquer l'activation de la coagulation. À la fin de l'essai, il n'y a pas de thrombose parce que l'essai est de durée courte et on imagine mal que les patients thrombosent. Donc, on est content, on va dire très bien, c'est aussi efficace. Ce qui est quand même curieux, c'est quand on regarde ici le potentiel endogène de thrombine, c'est-à-dire la capacité qu'a le produit à vraiment bloquer la coagulation chez ces patients qui sont à très haut risque de thrombose. On a tous des patients avec syndrome des antiphospholipides qui thrombosent sous anticoagulants. Eh bien, très nettement, la warfarine est plus efficace que rivaroxaban. Elle neutralise mieux l'activation de la coagulation que rivaroxaban. Et la conclusion de l'essai, je rappelle que c'est un essai sponsorisé par l'industrie et que la littérature nous apprend qu'un essai sponsorisé par l'industrie a 3 fois plus de chances de donner un avantage au produit qu'un essai qui est sponsorisé par l'académie, qu'un essai académique. Eh bien, la conclusion de cet essai, c'est rivaroxaban est possible dans le traitement primaire ou secondaire de la maladie thrombolique, mais est-ce qu'il est utile dans les syndromes d'antiphospholipides? Ce n'est pas certain. Et je pense que les nouveaux anticoagulants, pour ces patients à très haut risque, sont probablement moins intéressants, mais on le saura dans 5 ans, sont probablement moins intéressants que les antivitamine K, parce qu'avec antivitamine K, vous avez un équilibre INR 24 heures sur 24, donc vous êtes tranquille. Si le patient oublie un médicament un jour ou deux, il n'y a pas de problème. S'il oublie son médicament, qui a une demi-vie de 5 à 7 heures une fois, il n'est pas protégé. Donc je pense que pour les patients à très haut risque thrombotique, et peut-être que ça sera repris dans les recommandations à venir, pour les patients à très haut risque thrombotique veineux et autres, il est possible qu'il faille rester aux antivitamines K. Alors qu'est-ce qu'on peut conclure? Premier point, il n'y a pas de message clair pour dire qu'il faut commencer par l'héparine plutôt que par les anticoagulants oraux directs. Pour commencer, vous avez vu qu'il y a des anticoagulants qui commencent avec leur produit, d'autres qui commencent par l'héparine. On ne peut pas dire qu'il y a un qui soit mieux que l'autre pour le début du traitement. L'efficacité, je vous l'ai montré, et ça c'est bien repris dans la littérature et tout va dans ce sens-là, l'efficacité des nouveaux anticoagulants n'est pas supérieure aux antivitamines K. Le risque hémorragique des antivitamines K supérieur à celui des nouveaux anticoagulants conduit à recommander les nouveaux anticoagulants dans la plupart des cas de thrombose veineuse profonde d'embolie pulmonaire. L'insuffisance rénale sévère est une contre-indication aux nouveaux anticoagulants. Quand il y a une insuffisance rénale modérée, les réductions de doses ne peuvent pas être recommandées sur des bases scientifiques. Je vais montrer. On réduit les doses, mais on ne sait pas si on a le droit de le faire ou pas. C'est quand même gênant. Enfin, les nouveaux anticoagulants pourraient ne pas être le meilleur traitement pour les gens qui ont des maladies thromboliques sévères, je pense au syndrome d'antiphospholipide, peut-être aussi pour les déficits antithrombine, pour les déficits homozygotes en facteur 5 ou les hétérozygotes composites 5 et 2. Pour ces patients-là, il n'est pas certain qu'un produit à demi-vie courte avec ces incertitudes soit le meilleur traitement. Voilà ce que je voulais vous dire sur les maladies thromboliques veineuses.
Merci, professeur Schmidt. Cette revue est complète, un peu choquante pour ceux qui aimeraient toujours suivre les nouvelles, les innovations, surtout pour les laboratoires pharmaceutiques. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a des avantages pour les anticoagulants oraux, à condition de pouvoir sélectionner correctement la population de malades à qui il faut prescrire. Des questions ? Donc, j'aimerais à la fin reposer la question que Dr Rael avait posée lors de la première présentation. Si vous avez un malade, le même malade qu'avait présenté Dr Rael, est-ce que vous prescrirait des anticoagulants oraux? Qui prescrirait des antivitamines K ou des injectables?
Je ne vais pas répondre.
Tout le monde est encore hésitant. Personne ne voudrait s'engager immédiatement. Peut-être qu'il faut prendre le temps de réfléchir à la question et devant chaque malade et prendre la question au cas par cas.
Je crois qu'il faut, regarder de très près les études cliniques parce que c'est un domaine qui est extrêmement lourd financièrement. Moi, j'avais calculé en France, puisqu'on a la même réflexion sur la fibrillation atriale, que si tous les patients en fibrillation atriale étaient mis sous nouveaux anticoagulants, ça coûterait à la France 1 milliard d'euros par an. 1 milliard d'euros par an. Je ne sais pas si on peut se le payer. Donc, il faut quand même bien penser que cette différence de prix... Alors, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile à utiliser. J'en utilise, hein, je ne suis pas contre les nouveaux anticoagulants. C'est plus facile à utiliser, c'est beaucoup plus cher, c'est pas beaucoup plus efficace, la même efficacité, que ce soit dans la fibrillation ou autre. Donc, il faut bien réfléchir et tout ça. Ce sont des bons médicaments. Pour moi, ils font partie de la pharmacopée, mais de la remplacer systématiquement... je ne sais pas si on a les moyens de le faire. Hein. Et à ce moment-là, il faudra peut-être mettre... On va refuser des nouveaux antimitotiques parce qu'on n'aura plus les moyens. Donc je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence. C'est un domaine qui est encore assez incertain.
Merci, professeur Schwell. Je me rappelle, il y a 7 ans, quand on commençait à parler des NOAC, on disait que c'est la fin, on annonçait la fin de l'antivitamine K. Maintenant, on n'est pas toujours sûr. Merci.